Accent d'Europe, Laurent Berthaud, Nathalie Amar.
Bonjour Laurent.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Quand les manifestations ne suffisent plus, les militants et les citoyens engagés trouvent d'autres moyens.
Par exemple, poser nu pour alerter sur le réchauffement climatique ou encore lancer un site de pétition en ligne, cela se passe aux Pays-Bas.
Un reportage dans une ville qui n'existe plus ou plutôt pas encore.
Sloopfurt, ville virtuelle née de la contraction de Słubice la polonaise et Frankfurt Oder l'allemande.
Presse, politique, lobbying, ce sont des secteurs d'activité porteurs en Europe.
Et c'est Gaëlle Joly qui viendra nous parler de toutes les formations qui préparent à ces métiers de l'Europe.
Et puis la Lituanie redécouvre les petites salles de cinéma.
Après l'ère des multiplexes en banlieue, une salle ouvre à nouveau dans le centre de Vilnius.
C'est un mode de revendication pacifique et plutôt plaisant, et il a l'avantage de marquer durablement les esprits, au moins autant qu'une simple manifestation. Et ce moyen, Laurent, c'est de poser nu pour la bonne cause.
Et on ne compte plus les calendriers de footballeurs, pompiers, chômeurs qui posent nu afin de récolter des fonds au profit d'associations ou de clubs. Mais il y a aussi des photos choc pour servir des causes plus collectives.
Et c'est ce qui vient de se passer en France, en Bourgogne. Une centaine de personnes qui posent nu, c'était début octobre, dans un vignoble sous l'objectif du photographe Spencer Tunick.
Spencer Tunick qui s'est fait connaître en créant de telles installations. Cette fois-ci, c'est à la demande de Greenpeace qu'il a effectué ses clichés. L'association écologiste entend ainsi incarner la vulnérabilité de l'homme face au changement climatique, des changements qui affectent notamment les vignobles. Reportage en Bourgogne de Catherine Poté.
C'est une belle journée ensoleillée qui commence par une petite heure de marche entre la gare de Mâcon et les vignobles. Plusieurs centaines de personnes cheminent joyeusement, prêtes à participer à un événement à la fois artistique et ludique.
Se mettre à poil dans un vignoble au moment de l'automne, j'ai trouvé ça sympa.
J'ai fait la photo à Montréal en 2000 ou 2001, je ne sais plus, et j'avais trouvé ça très fun, super marrant, et voilà, très bonne ambiance, donc j'avais envie de recommencer, et qui plus est, c'est pour Greenpeace.
Le fait de se déshabiller, c'est quelque chose qui... vous suggère une petite angoisse ou pas du tout?
En fait, je l'ai déjà fait hier soir, je me souviens. J'étais seul chez moi, bon, j'ai eu une appréhension. Mais sinon, non, ça me dérange pas. C'est comme voilà, si on choisit d'aller sur une plage nudiste ou dans un club échangiste. Tout le monde sait pourquoi on est là, donc il n'y a pas de problème.
Bonjour mesdames et messieurs.
Bonjour.
Et merci d'être là pour participer à cette installation artistique et militante organisé par Greenpeace France avec Spencer Tunick. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu pour un moment convivial. Vous avez à votre gauche un point de restauration, un gobelet par personne, tri sélectif. Tout est bio. Okay ? Sur votre droite, vous aurez 4 toilettes sèches fabriquées par Greenpeace France pour vous, messieurs, dames. Voilà.
700 personnes ont répondu à l'appel de Greenpeace. Les participants s'assoient dans un champ, armés d'un mégaphone et juchés sur un escabeau. Spencer Tunick prend la parole.
Thank you everyone for coming.
Thank you.
Merci d'être venu. I just want to thank you for wanting to make...
Je vous remercie de votre présence et de votre participation à cet acte artistique qui va permettre de porter le message du changement climatique.
Pascal Husting, le directeur général de Greenpeace France, s'adresse lui aussi aux participants pour un message très politique.
On parle souvent de nos hommes et de nos femmes politiques comme si c'était des meneurs, des leaders. Mais en fait, ce sont des suiveurs. Et ce sera vous qui aujourd'hui installerez, avec l'aide de Spencer Tunick, un nouveau rapport de force. Donc c'est vous qui écrivez l'histoire et ce sont nos hommes et nos femmes politiques qui vous suivront.
Ok, vous pouvez commencer à vous mettre en condition pour cet après-midi.
Les 700 participants se déshabillent et quelques minutes plus tard, sous un soleil de plomb, ils arrivent les uns après les autres dans les rangs de vignes. Ils tiennent tous à la main une bouteille vide qu'ils devront brandir vers le ciel au moment de la photo. En attendant, on leur demande de former des lignes régulières au milieu des vignes.
Le quatrième rang, puis
cinquième.
Every row, take one step back.
Il faut beaucoup de temps pour finaliser l'installation. Les participants qui grillent sous le soleil se dissipent peu à peu. À poil la presse, le cri s'élève au-dessus des vignes à destination des journalistes tenus à l'écart mais grimpés sur une remorque pour que les objectifs puissent capter la scène. L'attente se prolonge, une petite musique se fait entendre. Les naturistes d'un jour s'amusent avec les bouteilles vides qu'on leur a données et des pierres ramassées au milieu des vignes. Enfin, au bout d'une heure, Spencer Tunick donne ses dernières instructions. On enlève ses lunettes, on ne sourit pas, c'est parti. Il faudra plusieurs heures pour réaliser les quatre tableaux de nus prévus par Spencer Tunick dans les vignes. Pas encore rhabillés, quelques participants confient leurs premières impressions.
Ah bah c'est une très très bonne expérience, je suis prête à recommencer. Au départ c'est un peu étrange parce qu'on se déshabille, donc on se regarde, on se connaît pas trop. Et puis une fois que la glace est rompue, c'est une super ambiance, très chouette expérience. Je pense qu'on sera tous prêts à recommencer.
Être nu dans les vignes, c'est une sensation particulière ?
C'est très agréable, d'autant plus qu'on a un temps magnifique aujourd'hui. On a pris un petit coup de soleil sur les fesses tout à l'heure en patientant.
Ah, c'est intéressant, ça change un peu, c'est marrant, quoi. C'est très naturel. Puis on est nombreux, quoi. On sent vraiment solidaires les uns les autres. Quoi.
C'était pas trop difficile de se déshabiller avec tout le monde ?
Bah, c'est pas se déshabiller avec tout le monde, après c'est déjà, y a des cailloux partout, on passe le temps à se faire engueuler, c'est plutôt ça qui dure.
Et pour Franck Thomas, meilleur sommelier d'Europe, le mariage de la vigne et du nu est parfait.
Quand vous regardez une grappe de raisin, c'est extrêmement sensuel, extrêmement simple. Et je pense que de le rapprocher de la nudité humaine, moi ça me pose aucun problème. Au contraire, quand on goûte un grand vin, quand on a une grande émotion face à un vin, c'est une émotion simple et pure. Donc c'est pour ça que je pense que les deux collent très bien ensemble.
Greenpeace utilisera les photos de Spencer Tunick pour pointer du doigt la vulnérabilité de l'homme dans une nature en danger. Les 700 volontaires auront droit à un cliché dédicacé du photographe américain.
Et si la France a la réputation d'un pays de manifestations et de grèves, c'est loin d'être le cas, Laurent, aux Pays-Bas.
Pour autant, les motifs de grogne y sont tout aussi nombreux et c'est par d'autres biais que les citoyens cherchent à se faire entendre, notamment par des pétitions en ligne. Un site internet rassemble même toutes ces pétitions qui circulent sur le net et leur donne une nouvelle visibilité. Précision de Sabine Sessou.
C'est Reinder Rustema, un sociologue des médias, qui a eu l'idée de ce site peticis.nl. Il l'a lancé en 2005 pour tester la capacité des nouveaux médias à soutenir une action citoyenne. Pour Reinder Rustema, Internet rime avec démocratie. Il lui paraît plus flexible et plus adapté à la vie moderne de mobiliser toutes sortes de gens sur un seul sujet, plutôt que de passer par les traditionnels partis politiques. Par ailleurs, ce sociologue a observé la tendance des internautes à donner leur avis sur tout, sans que le message ne soit forcément adressé à quelqu'un en particulier. Avec Pétici.nl, il fait en sorte que les pétitions arrivent à leur destinataire, que ce soit la ville, la province, le parlement ou le gouvernement central. Ce site dénombre aujourd'hui 100 000 visites par an. Deux des pétitions qui sont passées par là cette année ont trouvé un large écho dans la presse. La première, en janvier, a rassemblé 60 000 signatures contre la vente libre de feux d'artifice. Ces pétards font des morts et des blessés à chaque nouvel an aux Pays-Bas. La réponse du gouvernement a été décevante. Pas question de changer quoi que ce soit à la tradition des feux d'artifice en fin d'année. Mais une autre pétition a obtenu un meilleur résultat. Elle a rassemblé 10 000 signatures contre l'expulsion d'un jeune Angolais de 16 ans, arrivé à l'âge de 9 ans aux Pays-Bas et toujours sans papier. Sa famille d'accueil et la ville d'Ostrum se sont mobilisés pour qu'il puisse rester. Le maire a fait passer la pétition au secrétaire d'État à l'intégration qui a reconsidéré le dossier du mineur, finalement autorisé à rester. Un simple clic suffit et l'on peut lancer sa propre pétition. À chaque millier de visiteurs en moyenne, une nouvelle pétition est aujourd'hui lancée. Une forme de protestation montante qui s'avère plus efficace quand elle réussit à faire parler d'elle dans les médias.
C'est une ville qui n'existe pas et pourtant elle a déjà des habitants, des commerces et même une chaîne de télévision, en tout cas sur le papier, Laurent.
Oui, Slupfurt, une ville virtuelle née à la frontière germano-polonaise, contraction de Słubice et de Frankfurt. Ces deux villes allemandes et polonaises séparées par l'Oder n'en faisaient qu'une seule avant la Seconde Guerre mondiale. C'est une association qui a décidé de créer cette municipalité virtuelle dans l'espoir un jour peut-être de réunifier ces deux localités. C'est un reportage de Julien Méchaussier.
Non, on n'en a jamais entendu parler. Moi, je suis allemande et je parle allemand. Je ne sais pas ce que c'est que le Sloopfurt.
Oui, bien sûr que je connais. C'est la combinaison de Frankfurt et de Sloubice. Je trouve que c'est une très bonne idée, une idée qu'il faut garder. Et pourquoi ne pas adopter plus tard Sloopfurt comme nom officiel ?
Nous sommes sur le pont qui enjambe l'Oder et relie Francfort l'allemande et Sloubice, la polonaise. Ce couple de retraités allemands s'apprête à passer à pied du côté polonais pour faire des courses. Dans leur dos, l'ancien poste frontière, déserté par les gardes allemands depuis l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne. Et s'il n'y a plus de contrôle et que chacun est libre de traverser le pont comme bon lui semble, Francfort sur l'Oder et Sloubice continuent cependant de vivre chacune de son côté, sans système commun de canalisation ou de transport. Un artiste allemand, Michael Kurzweli, après avoir longuement vécu des deux côtés, a décidé de changer les mentalités et a créé la municipalité de Sloopfurt.
On se trouve ici, à côté du mur de Sloopfurt. Pour créer les limites, disons, de la ville de Sloopfurt, on a dû trouver une méthode. On a dit, il y a une entité, c'est la Pologne, une deuxième entité, c'est l'Allemagne. Et là où les deux entités se rencontrent, on a mis le cercle qui crée une nouvelle entité qui s'appelle Sloopfurt. Sloopfurt, c'est une ville qui se crée dans la tête.
Si ce mur reste symbolique et long de seulement quelques mètres, Sloopfurt se part des attributs d'une vraie municipalité, avec son propre journal, ses cartes postales ou encore sa carte de résident. Et au mois de juin dernier, des élections s'y sont même tenues. Tout le monde pouvait y participer, et même si Sloopfurt ne figure sur aucune carte officielle, la ville virtuelle possède désormais sa propre assemblée. Ce qui pourrait s'apparenter à un jeu de société ou à une farce à grande échelle poursuit des objectifs très sérieux, comme celui de montrer aux politiques de Sloubice et de Francfort qu'une vie commune est possible.
Dans la constitution de Sloopfurt, c'est déjà écrit, pour créer une partie, il faut au moins deux personnes de Sloop et deux personnes de Furt. Donc tous les partis qu'il y a à Sloopfurt, c'est des partis qui réfléchissent toujours sur tout le terrain de Sloopfurt.
Au cours de sa première session, l'assemblée de Sloopfurt a voté la construction d'une piste cyclable germano-polonaise, la publication d'un guide touristique ou encore la création d'une chaîne de télévision bilingue. Si tout ceci reste pour le moment virtuel, important et bel et bien pour Michael Kurzweli d'envoyer un signal clair.
Il faut absolument un programme de langage. Il faut que nos gamins, du côté de Furt, qu'ils apprennent déjà, étant tout petits, qu'ils apprennent déjà la langue polonaise. Que ça devienne comme leur deuxième langue maternelle. Et aussi, du côté de Furt, la même chose.
Avec, pourquoi pas un jour, l'adoption d'un système d'inscription bilingue sur les panneaux de la ville. Ce qui relève encore de l'utopie, fait par ailleurs des adeptes. À 50 km au sud de Sloopfurt, un projet similaire, appelé Gubien, a vu le jour entre les villes allemandes de Guben et polonaises de Gubine. Sloopfurt, une ville binationale virtuelle qui petit à petit fait son chemin dans les esprits des deux rives de l'Oder.
Nous travaillons actuellement pour l'Europe.
La chronique des jeunes européens.
L'Europe à 6, à 12, à 15, à 27, à mesure que l'Union progresse, des activités nouvelles se créent dans les institutions, la presse, la politique ou le lobbying, et c'est une chance à saisir pour les jeunes diplômés.
Et pour y voir un peu plus clair dans tous ces nouveaux métiers, Gaëlle Joly est avec nous. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Laurent.
Alors, vous nous proposez aujourd'hui un petit tour d'horizon des formations en Europe.
Oui, depuis quelques années, de plus en plus d'universités proposent des formations préparant aux métiers de l'Europe, administrateurs, lobbyistes, consultants chargés de projet, on assiste à l'émergence des métiers de l'Union, preuve que l'Europe est bien une réalité.
Alors parmi les formations, quelles sont les plus prestigieuses en Europe ?
Sans hésitation, la formation du Collège d'Europe sur le campus de Bruges en Belgique et de Natolin en Pologne, c'est un peu l'ENA de l'Europe, étape obligée avant Bruxelles et les institutions européennes. La filière est extrêmement sélective, il n'y a que 35 places. Pour entrer, il faut déjà avoir un master européen en poche. Le Collège d'Europe ne propose qu'une formation post-universitaire en droit, en économie et en relations internationales. Et sachez que 80% des étudiants du Collège d'Europe parlent au moins 4 langues. Et puis autre formation très reconnue, la London School of Economics à Londres. Pour l'anecdote, sachez qu'elle compte parmi ses anciens élèves John Fitzgerald Kennedy, l'ancien président américain en personne, un chancelier allemand, une reine du Danemark et 14 prix Nobel beau palmarès.
Alors peut-être moins prestigieux mais tout aussi formateur, beaucoup de masters également également dans les universités européennes.
Effectivement, la plupart des facs proposent des masters métiers de l'Europe, masters d'affaires européennes, politiques européennes, etc. On trouve de très bons masters généralistes en France, notamment à l'Institut d'études politiques de Paris, de Lille et de Strasbourg, mais aussi à Bruxelles, évidemment, en Italie, à l'Université de Sienne, de Salamanque en Espagne, du Panthéon à Athènes en Grèce. La liste est longue et au programme des voyages d'études et un bon réseau, le dernier semestre est réservé aux stages. La plupart des étudiants travaillent pour les collectivités locales, les entreprises, les ONG, les institutions européennes et les organismes de recherche.
Alors donc, qui peut s'inscrire dans ces masters, Gaëlle ?
Eh bien, les formations sont ouvertes à tous les profils, sciences politiques et juristes en tête, mais de plus en plus d'étudiants en sciences humaines et langues intègrent ces filières. Il faut un dossier solide, une expérience à l'étranger, par exemple dans le cadre d'Erasmus. Parler au moins très bien une langue étrangère, la plupart de ces masters attirent également beaucoup d'étudiants extra-européens.
Alors en ce qui concerne les débouchés les plus importants, avec ces masters, on peut devenir fonctionnaire de l'Union européenne. J'imagine que la filière est plutôt sélective.
Oui, c'est très difficile. Le nombre de recrutements est dérisoire pour aller travailler dans l'une des 7 institutions européennes. En 2008, moins de 150 Français ont été recrutés dans ces institutions. Mais attention, l'UE est en train de revoir sa façon de recruter les fonctionnaires. Fini les concours tous les 2 ou 5 ans. À partir de 2010, il y aura un concours chaque année. Le salaire commence en moyenne à 2 300 €, sans compter les primes.
Et puis un métier tout à fait particulier qui se développe, celui de lobbyiste.
Oui, au service d'un groupe industriel, le lobbyiste assure l'interface avec les pouvoirs publics. Ils sont 20 000 à Bruxelles et ce nombre ne cesse d'augmenter. Ces groupes d'intérêt cherchent à infléchir les directives du Parlement à leur profit. Pour devenir lobbyiste, il faut suivre un master d'intelligence économique, mais ils sont peu nombreux, ou un master de communication institutionnelle. C'est un secteur créateur d'emplois, une chance à saisir si le métier vous intéresse.
Merci Gaëlle, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Écoutez, vous entendez ça ?
Cinéma !
C'est ce soir.
Cinéma ! Cinéma !
Et c'est la fin d'une longue période de disette culturelle pour tous les cinéphiles en Lituanie. Une salle de cinéma vient d'ouvrir à Vilnius, Laurent.
Oui, depuis la fermeture de l'unique cinéma d'art et essai de la capitale lituanienne en 2005, le paysage cinématographique était dominé par deux grands multiplex et une production venue principalement d'outre-Atlantique. Aujourd'hui, les amoureux du grand écran ont donc l'impression de vivre un rêve éveillé. Marielle Vituro.
Pour les cinéphiles de Vilnius, le nouveau cinéma porte son nom à merveille. Il s'appelle Pasaka, ce qui signifie en lituanien « conte de fées ». Installé au premier étage, au-dessus d'un restaurant très fréquenté, le cinéma de 250 places a été aménagé grâce au système D. Des volontaires ont peint les murs avec des couleurs offertes par les sponsors. Quant aux sièges, ils ont été récupérés dans des salles de cinéma qui fermait. Les Lituaniens adorent aller au cinéma. 3,4 millions d'entrées rien que l'année dernière et ces 3 dernières années, la fréquentation a plus que doublé. La demande est donc là et le cinéma Pasaka a choisi de se démarquer de la production hollywoodienne à l'honneur dans les 2 multiplexes de Vilnius, les 2 cinémas qui drainent tout le public. Au programme donc, le dernier Woody Allen ou encore une rétrospective des films très sensibles du coréen Kim Ki-duk. Les festivals auront également une place privilégiée dans la programmation. Actuellement, c'est l'Amérique qui est montrée au travers de documentaires. Ensuite, ce seront des films avec pour thème les droits de l'homme, dans le cas du festival Ad Hoc. La concurrence sera rude, la directrice le sait, et pour fidéliser son public, elle veut l'éduquer. Le cinéma Pasaka propose donc des formations au monde du cinéma. Les écoliers pourront rendre visite aux projectionnistes ou apprendre à lire une image. Quant aux professionnels, ils plancheront eux sur le droit d'auteur avec des spécialistes de la question. Le pari de ce nouveau cinéma est risqué, reconnaît la directrice Greta Aksionaite, mais aujourd'hui, un conte de fées est né.
Et c'est le clap de fin sur Accent d'Europe, émission produite avec le soutien du programme Euranet.
À la réalisation Françoise Grelot, à la technique Thibaut Deschamps, au programme demain Laurent.
Je vous propose un reportage sur l'enseignement de la langue arabe en France. Pas facile de trouver des classes qui le proposent dans l'enseignement public, que ce soit en primaire ou secondaire. Du coup, ce sont les mosquées et organismes laïcs qui accueillent les très nombreux demandeurs.
Rendez-vous demain même heure pour un nouveau numéro d'Accent d'Europe sur RFI.